La maison Kizuki ou le jardin du Nô, extrait. Le masque d'Okina. Dans le monde de la commedia dell'arte, pour qualifier l'action de mettre le masque, on utilise communément le verbe chausser. On chausse le masque sur son visage, comme on chausse une botte sur son pied. Cela s'explique dans la mesure où le matériau dont on fait le masque est le cuir, et que sa fabrication relève du travail du bottier. On sculpte un visage caractéristique dans un bois dur, chêne ou tilleul, puis on pose sur cette forme un morceau de cuir mouillé, en lui faisant épouser à l'aide de divers instruments les creux, les sillons et les bosses. C'est cette technique perdue que le sculpteur Amleto Sartori avait réhabilité à la demande de Giorgio Streller, qui lui avait commandé les fameux masques de son arlequin valet de 2 mètres. Le masque de Nô, en revanche, est entièrement fait de bois, cyprès du Japon et parfois camphrié. À la fois rigide, souvent plat et étroit, il n'emballe pas le visage comme une seconde peau, à l'instar du masque de cuir. C'est pourquoi Nicolas Bouvier, pour qualifier le geste que fait l'acteur de Nô au moment de mettre le masque, disait qu'il l'apposait sur son visage plutôt qu'il le chaussait. Apposer, c'est-à-dire poser sur, appliquer et non pas greffer. Le personnage dont le masque est l'effigie est ainsi porté en avant par l'acteur, présenté comme une offrande au public. D'ailleurs, s'agit-il vraiment d'un personnage au sens où on l'entend dans le théâtre occidental ? La figure centrale d'un nô est tenue en suspens dans le vide. C'est une plante qui ne peut croître qu'en un espace totalement dépouillé. Pour cette raison, comme se plaît à le dire Valère Novarina, il vaudrait mieux l'appeler une personne. Lorsque je vois un acteur de nô faire son entrée en scène et venir s'arrêter au centre du plateau, je suis toujours saisi par cette même impression. Il porte le rôle, le dépose, puis il recule et le laisse faire. L'espace scénique résonne toujours comme une caisse vide. Sur une scène de théâtre occidental, il y a constamment un objet qui traîne, alors que sur la scène de Nô, il n'y a rien. Salle vide, scène vide, une salle vide où se dresse une scène vide, où rien n'est encore inscrit, où tout peut, où tout va s'inscrire, mais où, quoi qu'il puisse se manifester, tout va s'effacer, disparaître, retourner à l'extinction du personnage, de l'acteur, du musicien, du public. Le plus vieux personnage du Nô lui est bien antérieur. Sa trace remonte aux alentours du XIIe siècle. Il s'appelle Okina et apparaît tantôt sous les traits d'un enfant, tantôt sous ceux d'un vieillard égrillard. Yeux malicieux, bouche rieuse. Enfant, il s'appelle Senzai ou Chitose, deux noms qui signifient le millénaire, ou encore Emmei Kaja, le jouvenceau qui prolonge la vie. Vieillard, il s'appelle aussi Sambasso, le troisième aïeul, ou encore Chichinojo, le vieux père salvateur. Sa face est tantôt blanche, tantôt noire, mais son expression première est toujours rieuse. Il semble se moquer de tout et détenir un pouvoir surnaturel. Il vient et s'en va. Il revient on ne sait d'où et repart on ne sait où, mais il revient périodiquement. De très loin, en tout cas de très loin dans le temps. C'est qu'il règne sur le monde des esprits. Il a le pouvoir de diriger les spectres, de faire surgir les revenants. Après tout, il est Dieu. Il semble appartenir à toutes les assemblées divines, au panthéon bouddhiste comme au panthéon du Shinto animiste. On le connaît aussi sous le nom divin de Daikokuten, un avatar de Mahakala, qui est lui-même une divinité du tantrisme indien. Mahakala, comme Daikokuten, signifie « le grand noir » ou « le grand temps ». De Daikokuten, on dit qu'il est l'une des 7 divinités du bonheur, qu'il est le sauveur du genre humain et le protecteur du triple joyau, le Bouddha Shakyamuni, la loi établie par le Bouddha et la communauté monastique. Parfois, on le représente le corps affublé de trois têtes et juché sur un sanglier. On l'a aussi peint sous les traits d'un paysan gras et rigolard, portant un grand sac sur l'épaule et foulant de ses pieds deux grosses balles de riz. Le sac, qui est signe de prospérité, est parfois grignoté par des rats. Ce qu'il contient est la sagesse et la patience. Pareil au sac est le corps d'Okina, qui contient plusieurs formes. Mahakala, Daikokuten ne sont pas les seules émanations divines qui habitent le corps d'Okina et qui infiltrent les corps de ses homologues Senzai, Emmeikaja, Sambaso ou Chichinojo. Il y a aussi les dieux Shukujin, Matarajin et Kojin. Shukujin symbolise les formes multiples qui font leur apparition sur la grande scène. Matarajin est l'incarnation du chant et de la danse, mais aussi des actes sexuels. Quant à Kojin, il est le Bouddha primordial, manifesté sous les traits d'une apparition divine. Se présentant comme le dieu ancêtre de tous les dieux, il est le maître et patron tutélaire des êtres avant leur naissance. Okina est donc tout cela à la fois. Il est issu d'une contrée lointaine qui s'étend bien au-delà des mers, le Tokoyo, ou monde immuable. Lui et ses compagnons pérégrins sont les visiteurs de l'an neuf. Au renouvellement de l'année, cette cohorte divine venue de nulle part fait son apparition dans le monde des humains pour leur apporter la prospérité et le bonheur. Le visage d'Okina est cependant aussi changeant que tout ce qui fait notre monde. Débarquant du monde immuable, dans ce monde où tout change, Okina apparaît sous l'aspect d'un humain parmi les humains. Les traits de son visage sont marqués par la dualité qui caractérise les humains, une expression à la fois bienveillante et malveillante, qui oscille entre la bonté divine et la méchanceté démoniaque. Je ne peux m'empêcher de faire ici le lien avec les bandes masquées des carnavals montagnards de la Suisse centrale, avec les hordes d'esprits bons et mauvais, beaux ou laids, Sylvester Cloys et Dournesch, Uroy Cheguette et Ochinni du Lechental. Entre eux et les visiteurs du Tokoyo, il y a une parenté évidente qui rattache les uns comme les autres aux lois universelles de la culture de notre monde. Il est bon de se rappeler ce qu'en a dit Maurice Chapa. Les biens et les lois viennent des ancêtres, et tout est régi par eux, c'est-à-dire par les morts qui ressurgissent à date régulière, au moment où l'année change, à partir du solstice d'hiver. Et ce sont les morts, les enfuis, qui relient les vivants à l'origine, qui empêchent l'éternité de périr. S'ils ne revenaient pas, ce serait encore plus effrayant. Moi, rien. Et donc maintiennent l'ordre et assurent la continuité des royaumes ruraux, minuscules et infinis. Notre monde, selon nos croyances, tourne entre un paradis et un âge de la promesse, entre un commencement parfait et un futur recommencement parfait, terme bienheureux d'une catastrophe constamment appréhendée. Et notre corps cherche à empoigner d'autres corps, entre la sortie de la matrice et le retour à la terre maternelle. Je répète, éternité périssable. Raccrochons-nous à ce pivot, le nouvel an. On inaugure un nouveau cycle temporel et il y a un renouvellement du monde. Dire l'origine, c'est se guérir de la mort, c'est traverser à l'avance l'apocalypse prévue. Dans le no Okina, le premier personnage qui entre en scène est porteur d'un coffret. Il s'agit de Senzai, que l'interprète incarne à visage découvert. Le coffret contient les masques des vénérables Okina et Sambaso. Ces masques, le premier blanc, le second noir, sont des objets hautement sacrés, aussi précieux qu'une relique. À ce propos, Ziami rapporte cette histoire étonnante. Jadis, un homme de Yamashina, guerrier de condition modeste, avait eu l'insigne honneur d'épouser la fille d'un maître de Nô. Le beau-père avait sous son autorité toute une troupe d'acteurs et de musiciens. Le gendre, qui pensait se reconvertir au théâtre Nau, ne savait pas s'il avait les moyens d'exercer ce métier ardu. Il se rendit par conséquent dans un sanctuaire consulter les oracles. Il était en prière lorsqu'un corbeau qui planait au-dessus de l'enceinte laissa choir un objet qu'il tenait dans son bec. L'homme alla voir ce que c'était et découvrit qu'il s'agissait d'un masque d'Okina. Ce masque était ainsi la réponse du ciel. Ayant compris cela, l'homme put consacrer toute sa vie au Nau. Sa troupe porta le nom de Yamashina. Il eut 3 fils, dont chacun fonda sa propre compagnie. L'aîné, qui avait hérité de celle de Yamashina, fut pourtant le seul à détenir le privilège de représenter Okina. Chaque année, au passage de l'an 9, sa troupe jouait Okina dans le sanctuaire de Hiei à Sakamoto. Chose incroyable, bien des années auparavant, le fondateur de la lignée Yamashina se trouvait dans ce même sanctuaire le jour où son fils âgé de 3 ans mourut. Le père récita des prières et fit le vœu que tous ses descendants représenteraient désormais le Nau Okina au passage de l'an 9. Le ciel ne resta pas insensible à cette promesse, car l'enfant mort revint à la vie sur le champ. À l'origine, le rôle d'Okina était traditionnellement joué par le doyen de la troupe. La règle s'est modifiée au XIVe siècle par la simple volonté du shogun Ashikaga no Yoshimitsu, qui décréta que le rôle d'Okina devait être tenu non par le doyen de la troupe, mais par son chef en personne. Il s'agissait en l'occurrence de Kannami, premier chef de la lignée Yuzaki Kanze et père de Zeami. Dans leurs écrits théoriques, Zeami et son gendre Komparu Zenshiku ont toujours insisté sur le rôle primordial que le personnage d'Okina tenait dans l'art du théâtre Nau. C'est en emportant cette dernière image de Nau que j'allais quitter le Japon. La veille du départ, dans l'ouest de Shinjuku, Takayuki, Keiko et moi, nous dégustions encore toutes sortes de fritures. Les départs doivent se commémorer au même titre que les naissances et les disparitions, comme à chaque étape de l'existence. Au Japon, la vie se règle ainsi au rythme des commémorations. L'instant échappe à la banalité. Aussi infime soit-il, il parvient à s'inscrire dans le grand cycle de l'existence, de sorte que la moindre vie acquiert de l'importance. Nous commémorions donc un quart de siècle d'attention mutuelle, de travail et d'amitié sans faille. Oui, cela fait 25 ans, murmurions-nous tout ébahis, 25 années que nous avons passées et partagées sans qu'il y ait eu la moindre trahison. Liés tous deux par un art ne reposant sur aucun artifice, sur aucune forme d'exotisme, soutenus tous deux par la solide trame du Nau, sans trahison. C'est cela aussi l'esprit guerrier et chevaleresque du Nau. Au cours de ces 25 années, plusieurs énigmes ont été éclaircies. Je me suis rendu compte que les meilleurs interprètes de Nau ne prenaient aucunement à la légère les fables constituant la trame des pièces, mais que bien au contraire, ils cherchaient sans relâche à en régénérer le sens, à se l'approprier en regard de leur propre expérience pour mieux projeter en elle leur point de vue d'homme de ce monde. L'évolution d'un art aussi exigeant que le leur est une lourde responsabilité dont ils ont pleinement conscience aujourd'hui. Une pièce de Nau est une fable en soi dont la portée déborde largement le contexte dans lequel elle a pris naissance. La nature de son propos concerne tout individu, quelle que soit son époque, son rang social ou son lieu d'origine. Ces légendes ont sans cesse été confrontées à des sociétés nouvelles et de ce fait se sont chargées de toujours plus de sens. Leur caractère universel s'est forgé peu à peu au fil des siècles, comme pour le théâtre antique des Grecs ou les tragédies de Shakespeare. Je m'interrogeais aussi sur quelques aspects mystérieux du Nau, sa lenteur et la vacuité dans laquelle il s'inscrit avec constance. C'est bien après Zeami, à partir du XVIIe siècle, selon les exégètes, que le Nau s'est enlisé dans la lenteur, en une époque où il était plutôt tombé en désuétude. Étirement dans le temps, ralentissement des gestes, longue cadence mélodique, immobilité et silence, ses traits faisaient désormais partie de ses caractéristiques. J'ai finalement compris que la lenteur n'était pas une qualité esthétique en soi, pas plus que la propension d'une eau à s'ériger dans le vide. Pour que sa forme soit parfaitement authentique, le nœud doit être habité par une idée profonde. Une idée, une intention, une conscience agissante, un désir, une juste vision. Chargé de cette idée, lenteur et vacuité permettent au nœud de tendre vers le lointain. La lenteur est garante de la quiétude foncière par laquelle il devient possible d'accéder au lointain. La vacuité est le siège de l'immatériel où vont et viennent les mânes et les esprits. Il y a aussi la profondeur qui, dans son infini, est porteuse de la résonance, permettant de se connecter avec le lointain extrême. Chaque trait de la représentation demeure ainsi en affinité avec lui, comme en un tableau peint, tels jusqu'en leurs moindres replis, les reliefs, tels jusqu'en leurs secrets méandres, les flux. Le tout est de percevoir l'ordre qui régit tout paysage apparemment désordonné. Ces concepts, cependant, ne sont pas l'apanage exclusif du théâtre nœud. Ils sont le fait de tout art, peinture, poésie, musique, danse. Ils ont été perçus, compris et appliqués par de grands artistes prédécesseurs. Kannami et Zeami ont été les premiers à s'inspirer de ces principes anciens et à les insuffler à cet art nouveau qu'ils venaient de fonder, le nœud, fascinés qu'ils étaient par les peintres et poètes chinois des Song et par l'esprit qui animait leurs œuvres, tout imprégné de Tao et de Zen. Toute œuvre d'art est la réflexion d'un ordre. L'établissement d'un ordre ne suffit toutefois pas à justifier le dessin, la peinture d'un paysage, car l'ordre n'est pas un critère établi à la convenance du spectateur. Le spectateur ne peut rejoindre l'artiste que s'il perçoit dans l'œuvre créée la poussée irrépressible de rejoindre l'unicité de l'univers. L'artiste, de son côté, ne saurait se fier à ses seules bonnes intentions, pas plus qu'à la solidité de sa maîtrise technique pour susciter cette poussée. Prise en tant que telle, les bonnes intentions, comme la maîtrise technique, ne peuvent aboutir qu'à la maladresse et pour l'artiste à faire violence à soi-même comme à autrui, bien malgré soi. Par ailleurs, que pouvais-je faire de cette richesse tant perçue que reçue? De quelle manière infiltrait-elle mon champ créatif d'acteur? Et sous quelle forme se manifestait-elle dans mon jeu? Quelle part prenait-elle dans mon enseignement? Comment pouvait-elle se transmettre à mes élèves? Et quel était leur profit? Ces interrogations soulèvent plusieurs remarques. Durant ce quart de siècle écoulé, le fossé apparent qui séparait le nœud pratiqué par Takayuki et le théâtre pratiqué par moi-même s'est comblé au fil des ans. J'avais de moins en moins le sentiment que nous exercions un métier différent l'un de l'autre. Chacun, en son domaine, nous partagions aussi le même discours. Imperceptiblement, nos démarches devaient se rejoindre. Au début de notre relation, il est vrai que le nœud m'apparaissait comme un monde à part. Peu à peu, je me le suis intégré. Cela s'est fait naturellement, et bien malgré moi. Ainsi, dans mon travail d'acteur, je n'ai jamais cherché à reproduire des gestes de nœud, à marcher par exemple comme un acteur de nœud. En revanche, j'ai porté une attention accrue à mes équilibres, à la position de mon bassin, et recherchant toujours plus de souplesse dans mes évolutions en scène, je me suis attaché à produire des impulsions nettes, à exécuter mes gestes, l'esprit relâché. Dans le domaine de la voix, j'ai compris l'importance du souffle et dans l'usage de la parole, la nécessité d'organiser le discours en repérant les diverses cellules rythmiques qui le composent. J'ai eu pour guide certains principes qui renforcent la concentration scénique et qui sont facilement repérables dans la pratique du nœud. Entrer en scène, être là et rien d'autre. Projeter sa présence, c'est-à-dire se donner à voir sans ostentation. cultiver et conserver la vision intérieure de l'en soi qui représente, telle que cette vision puisse être projetée à l'extérieur. Être à l'écoute et savoir écouter. Retenir en tant soit peu le geste, dit Ami. Avoir la vision de soi telle qu'elle est perçue par le spectateur, le fameux Riken no Ken, ou vision objectivée de Zéami. Détenir la vision de loin comme de près, tant du personnage représenté que du paysage qui l'englobe, suivant cette sentence du grand peintre Guo Xi, XIe siècle. Un vrai paysage, il faut le regarder de loin pour en capter les lignes de force et de près pour en tirer la substance. Savoir faire et savoir ne rien faire, laisser agir le personnage à sa guise et demeurer le témoin silencieux de ses actes. Laisser circuler librement tous les flux, fluides, courants, suppurations et sécrétions dans le cours de la création. Mon corps est un lieu de passage que traversent des flux, des fluides, des liquides, le sang, l'urine, la sueur, les humeurs, les sécrétions sexuelles, que traversent de même les souffles et les airs, que traversent aussi des figures venues de nulle part, des fragments de discours, des traces de vie, émotions impalpables, mouvements imperceptibles. Parole prononcée par Shinosuke VII. À présent, Ebizo XIe, acteur de Kabuki et fils du grand Ichikawa Danjuro XII. Savoir distinguer le juste du faux, suivant cet adage chinois, quand l'homme juste commet une action de travers, l'action de travers est juste. Quand l'homme de travers commet une action juste, l'action juste est de travers. Ne pas m'attacher à ce que je fais, à ce que je produis, partant du constat que dans chaque instant de ma vie, ce que je fais et produit ici et maintenant est totalement différent. Un homme a beaucoup de possibilités, Mr. Schlink, n'est-ce pas? Oh oui, un homme a beaucoup de possibilités. Marie Garga, dans la jungle des villes de Bertolt Brecht. Le jardin du Nô, 28 février 2010. C'était hier. Je regardais notre petit jardin que la neige épaisse avait recouvert depuis de longues semaines. La nature, encore terriblement meurtrie par l'hiver, laissait entrevoir de belles promesses. Des oiseaux en rafale venaient picorer les graines que nous leur avions mises dans la petite cabane, moineaux, mésanges, rouge-gorge, hoche-queue ou merles, qui se bataillaient en criant à tue-tête. Et je regardais les quelques arbres de notre jardin qui avaient laissé tomber leur manteau de neige et se dressaient décharnés dans le ciel. 6 arbres dont je voyais poindre les bourgeons et qui m'inspiraient ces poèmes. Le prunier. Petit prunier au tronc malade, écroulant sous le poids des ans. Combien de fois viendrai-je encore panser ta blessure pour que tu nous donnes, comme à chaque automne, de succulentes prunes. Le poirier. Toi, le poirier qui nous apporte l'ombre aux jours chauds de l'été, tes fruits attendent les grands froids pour être cuits de longues heures et donner à notre bouche leur saveur de sucre et de miel. L'érable. Toi, le beau, le frêle, rouge et flamboyant, dont le chat, agacé, aime à lacérer la parure, est-ce la danse de Suruga qui te fait bouger de la sorte lorsque le vent soulève tes jupes? Le bambou. La neige te pèse et veut te faire plier de tout son poids, toute la souffrance du monde sur tes épaules. Et moi, je me désole et veux te redresser afin que tu m'enseignes l'art secret de la verticale. le merisier. Le cramoisi de tes joues me fait chavirer le cœur. Gare à ton sourire acide, mais je sais pourtant, menteuse, que ta chair est tendre et qu'en la mordant, je ferai jaillir ta douceur. Le pain doré. En offrande au ciel, tu disperses l'or de tes doigts, qu'importe ta petite taille. Je devine la force de tes racines qui, du fond de la terre noire, diffusent intensément la lumière. Ces six arbres, le saviez-vous, parlent le langage du nô. Le nô est votre jardin. Grâce à vous, je sais que le nô a aussi investi mon jardin. Il est devenu mon jardin. Et vous en êtes le divin jardinier.